On va commencer avec un mot de prière. Ensuite, on va tourner vers notre étude. On est encore dans l'intervalle entre les quatre premières fêtes qu'on avait dit qui concernaient Israël, mais aussi l'Église. Puis maintenant, à la fin du troisième mois, dans la fête de la Pentecôte, on a un intervalle entre cette fête-là et au septième mois, quand on arrive aux trois dernières fêtes, qui sont des trois fêtes qui concernent Israël seulement, dans la restauration d'Israël. Mais dans l'intervalle, comme on avait vu, c'est la moisson. C'est la moisson, c'est l'Église qui est rassemblée. Ceux qui sont sauvés sont ajoutés à l'Église par le Seigneur. Jour après jour, jusqu'à l'enlèvement d'Église, puis à l'enlèvement d'Église, après ça, bien, on va arriver avec la fête des trompettes, qui est le rassemblement d'Israël pour la restauration d'Israël, le jour des expiations, et ensuite le royaume qui va être donné à Israël, ça va être la fête des tabernacles. Donc, on va prendre un moment devant le Seigneur pour demander son aide. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore une fois dans ta bonté qu'on soit réunis ici ensemble ce soir en dépit de la température, Seigneur, parce qu'on est chacun dans nos foyers. On te remercie pour ça, qu'on puisse se rencontrer puis passer un temps dans ta parole, notre Dieu. On te demande ton aide par ton esprit, que tu puisses nous éclairer, nous aider à comprendre ta parole. Et Seigneur, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle qu'on veut, mais c'est vraiment en connaissant davantage ton plan, en connaissant davantage ton amour pour nous, Seigneur, on veut qu'on puisse t'aimer encore davantage, un peu comme Paul a dit, nous nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. On te remercie pour ça, Seigneur, on te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, la semaine passée, on avait parlé un peu en début de cet intervalle qu'on garde maintenant. C'est comme une dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. On avait parlé de ça la semaine passée. Il y a sept dispensations. Puis on avait dit comment c'était, ou c'est la dispensation de la grâce ou la période de l'Église qu'on appelle communément. Mais on avait dit qu'il y avait sept dispensations. Puis c'est un enseignement qui a été remis en question, ou qui est remis en question dernièrement. On avait dit que c'était un enseignement, les dispensations. C'est un arrangement que Dieu fait, ou des ententes avec les hommes pour, dans sa révélation progressive, et pour qu'on puisse le connaître. Mais c'est ça, c'est un enseignement qui avait été perdu dans les années sombres, mais maintenant qui avait été retrouvé dans le réveil. Et que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui, même dans le milieu évangélique, qui ne rejettent cet enseignement-là, mais vraiment, on avait dit, comme Augustin avait dit, différenciant les anges, puis les Écritures s'harmonisent. Donc, dans cet enseignement-là des dispensations, parce que Dieu agit d'une façon différente avec les hommes à différents moments dans la révélation progressive de lui-même, eh bien, on voit que c'est pour ça que ça nous aide à comprendre. C'est certain qu'on voit que dans l'Ancien Testament, quand ils étaient sous la loi, c'est différent de nous maintenant qui sommes sous la grâce. Même si dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient jamais sauvés par la loi, c'était par la foi, mais l'arrangement que Dieu avait fait avec eux, c'était de les soumettre à la loi. Puis on voit que le but de ça, c'était de vraiment les amener à reconnaître leurs besoins, parce que devant la loi, on réalise rapidement qu'on ne peut pas accomplir la loi à cause de notre péché, notre nature de péché. Mais c'était pour nous amener c'était comme Paul dit, c'était un pédagogue pour nous amener à reconnaître notre besoin du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Sauveur, qui lui nous apporte la grâce. Donc, c'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, on va revenir un peu à l'intervalle, puis on va lire dans Lévitique, au chapitre 23 de Lévitique. On voit ici, comme on avait dit, on n'a pas vraiment des versets dans Lévitique 23, mais on voit que c'est une période de temps qui est entre la fête de la Pentecôte, qui était le début de la moisson, la gerbe, qui était agité, les deux pains qui étaient agités, et jusqu'à ce qu'on arrive à la fête des trompettes. Mais en attendant, on voit cet intervalle-là. C'est qu'on a lu le verset 22 de Lévitique 23. Il dit, quand vous ferez la moisson, puis cette moisson-là représente cet intervalle-là, le temps où le Seigneur rassemble, ajoute à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Puis le verset 23 nous vient après, c'est l'Éternel parla à Moïse et dit, puis on avait dit auparavant que quand on voit cette phrase-là, l'Éternel parla à Moïse et dit, bien, on tombe dans une autre fête. C'est l'introduction à chacune des fêtes. Mais on va aller lire dans Romains 11, parce que Romains 11 nous parle de la mise à l'écart d'Israël, l'aveuglement d'Israël, pendant le temps où le Seigneur rassemble des sauvés à son Église, puis après ça, qu'il va revenir avec Israël par la suite. Dans Romains 11, au verset 11, on va lire les versets 11 à 15, il dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Ça, on parle des Juifs, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Donc, on voit ici, c'est cette chute-là, dans la chute d'Israël ou la mise à l'écart d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie pour exciter les Juifs ou Israël à la jalousie. Il nous dit au verset 12, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Donc, Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est que leur mise à l'écart a permis que les païens puissent entrer. Mais le fait que les païens entrent aussi, ça suscite une jalousie de la part d'Israël pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. C'est pour ça que Paul il disait que lui, il était envoyé vers les païens, mais en étant envoyé vers les païens, il magnifiait son service, son ministère, afin de les exciter à la jalousie. Donc, on voit que même en prêchant l'évangile aux païens, il y avait quand même Israël en vue. On sait que Paul aimait son peuple. On va aller maintenant dans le verset 25 à 26. Puis, verset 25 à 26, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Voyez-vous un peu ici comme on voit comment est-ce que Dieu agit. À cause de la désobéissance d'Israël, mais Dieu les a mis à l'écart pour un temps, puis le salut est devenu disponible à nous, puis on entre dans ça, mais à la fin, eux, parce que nous aussi, on était désobéissants avant, mais parce qu'ils vont voir que nous qui avons été désobéissants auparavant, on a obtenu miséricorde, ça va être un message pour eux autres qui ont été désobéissants, que eux aussi peuvent obtenir miséricorde. Mais bon, on voit l'arrangement de Dieu, comment Dieu arrange les choses pour... Une chose qu'on doit reconnaître avec Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu désire, Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça ne veut pas dire que tous sont sauvés, mais ça veut dire que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais il faut que chacun reçoive. Quand on revient à l'intervalle, on va aller dans Acte 15. On voit que c'était au Concile à Jérusalem, quand ils ont discuté par rapport aux païens. Dans Acte 15, ils ont discuté par rapport aux païens parce qu'il y en avait qui disaient qu'il fallait que les païens soient sous la loi, puis comme Israël avait été sous la loi. Mais on voit qu'on est dans une dispensation différente, c'est la dispensation de la grâce. Puis les païens ne doivent pas être mis sous la loi. Mais ça a causé une discussion parce que certains avaient été dans des églises des païens. Puis il avait dit que s'ils n'observaient pas la loi de Moïse, ils ne pouvaient pas être sauvés. Puis il fallait être circoncis. On voit que Paul a fait tout un débat pour les Galates à ce sujet-là pour démontrer que non, c'est une dispensation différente. Puis c'est la dispensation de la grâce, c'est l'intervalle qui est en question ici. Puis jusqu'à temps que ça vienne aux apôtres à Jérusalem, puis qu'ils discutent la situation, puis là, ils en viennent à dire qu'ils ne doivent pas imposer la loi parce qu'ils disent, même nous autres, on n'a pas pu se soumettre à la loi, on n'a pas pu accomplir la loi. Donc, ils ne voulaient pas mettre un fardeau de la loi sur les païens parce qu'ils étaient sauvés par la grâce. Puis, après ça, au verset 12 de Acte 15, il dit, toute l'assemblée gardait le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Ça les envoyait vers les païens, les missionnaires vers les païens. Puis après qu'ils ont discuté ces choses-là, ils sont venus puis ont montré comment Dieu avait agi. Puis Paul le dit aux Galates, est-ce que c'est par la loi que les miracles qui ont été accomplis, que l'évangile qui a été prêché, ce n'était pas par la loi, mais c'était par la foi dans l'évangile qui avait été prêché. Donc, au verset 13, il dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, donc Jacques qui était vu comme une autorité parmi eux, il dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. C'est sûr que Céphas ou Pierre, Simon, c'est lui qui avait été envoyé premièrement vers les païens, qui avait été envoyé vers Corneille, et Corneille qui a été sauvé. Donc il dit, puis Pierre a reconnu du fait que Dieu lui avait donné une vision avec la nappe qui descendait du ciel avec les animaux impurs. Puis il avait dit, Pierre, tue et mange. Et Pierre avait dit, non, jamais rien de souillé, parce qu'il regardait les païens comme souillés. Puis le Seigneur, il a dit, jamais rien de souillé n'est entré dans ma bouche. Puis le Seigneur a dit, ce que j'ai déclaré comme pur, ne le regarde pas comme souillé. C'est pour montrer que Dieu maintenant se tournait vers les païens, puis le salut était offert aux païens. Ça ne veut pas dire que les païens ne pouvaient pas être sauvés dans l'Ancien Testament, parce qu'on voit qu'il y a des non-juifs qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament par la foi, mais il fallait passer par Israël. Mais maintenant, c'était directement l'évangile qui était prêché aux païens. Donc, il dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit après cela. Ça, c'est dans Amos 9, qu'on voit, il cite Amos 9, 11 à 12. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute. Après quoi? Ben, après avoir tourné vers les nations pour se choisir un peuple. Il dit, après ça, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Vous savez, ici, on a les trois divisions de l'humanité. On a l'Église, c'est ça qu'il dit, après que l'Église a été rassemblée, là, il va se tourner vers Israël. Donc, on a l'Église. On a l'Israël, puis ensuite de ça, les nations. C'est les trois divisions qu'on voit dans la parole de Dieu. C'est la façon que Dieu voit l'humanité en trois, divisée en trois, Israël, l'Église, puis les nations. On voit ça dans les paraboles aussi. le Seigneur, il y a le trésor dans les paraboles du royaume. Le trésor, ça concerne Israël. La perle, ça concerne l'Église. Puis le filet, à la fin, ça concerne les nations. Donc, Dieu rejoint les nations. Des fois, on dit, Dieu a fait du favoritisme en choisissant Israël, mais non. Dieu, en choisissant Israël, voulait rejoindre les nations, mais parce qu'Israël a manqué, Dieu est allé directement vers les nations. Puis ensuite de ça, bien, pour se choisir un peuple qui porte son nom. Puis ensuite de ça, il va réutiliser. C'est pour ça que cet intervalle-là nous dit que Dieu va revenir avec Israël. Pour les trois dernières fêtes, Dieu revient avec Israël pour rejoindre avec Israël les nations qui étaient son but premier, c'était de rejoindre les nations avec Israël. Donc, premièrement, on voit que Dieu visite les nations pour se choisir un peuple. Donc, ça, c'est l'Église. Après cela, il revient pour relever la tente de David. C'est ce qu'on va voir avec les trois dernières fêtes, les trompettes qui est le rassemblement, le jour des expiations qui est leur restauration à leur Dieu, à leur Messie. Et ensuite de ça, la fête des tabernacles, c'est le royaume qui va leur être donné. Donc après cela, je reviendrai, je relèverai la tente de David, puis avec la tente de David restaurée, avec le peuple d'Israël restauré, les nations vont rechercher le Seigneur à travers Israël. Donc, premièrement, Dieu visite les nations, ça, c'est la période de l'Église. C'est ce qui arrive maintenant depuis 2000 ans. C'est l'intervalle dans lequel qu'est-ce qu'on regarde maintenant, les 2000 ans d'histoire où le Seigneur rassemble, comme dans le livre des Actes, on dit à chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais ça se passe depuis la Pentecôte, ça, depuis la fête de la Pentecôte, quand l'Église est descendue, l'Esprit est descendu, puis a baptisé l'Église dans un seul corps, eh bien, le Seigneur maintenant moissonne, ramasse ceux qui sont sauvés, il les ajoute à l'Église chaque jour. On pense, dans ce sens-là, c'est l'Église universelle. L'Église universelle, c'est le Seigneur qui la contrôle, il n'y a pas d'erreur. Puis ceux qui font partie de l'Église universelle sont tous sauvés. C'est le Seigneur qui connaît leur cœur, puis il les ajoute à cette Église universelle-là à chaque jour. L'Église universelle ne s'est jamais réunie dans un même lieu. Elle va être réunie à l'enlèvement. Quand on va être, parce qu'il y en a qui sont morts, puis il y en a qui ne sont pas encore nés, peut-être, et on va être réunis quand le Seigneur va venir nous prendre. Donc, de toutes les nations, Dieu se rassemble un peuple qui porte son nom pour être l'épouse de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, après ça, quand il dit, après cela, je reviendrai et je reviendrai relever la tente de David, bien, ça, c'est la tribulation. Parce qu'à travers la tribulation, à travers des grandes souffrances, Dieu va restaurer son peuple d'Israël. Maintenant, l'Église est partie. L'Église, c'est pour ça que l'enlèvement de l'Église est avant la restauration d'Israël, avant la tribulation. C'est encore un enseignement qui est remis en question aujourd'hui par même les évangéliques, que l'enlèvement de l'Église n'est pas avant la tribulation, mais il dit après cela, je reviendrai, après qu'il va avoir rassemblé son peuple, puis qu'il va l'avoir emmené avec lui dans la maison du Père. Là, il revient avec Israël, puis il va restaurer Israël. Mais ça va être à travers des grandes souffrances. Parce que quand on parle de la tribulation, la deuxième partie de la tribulation, la tribulation est une période de 7 ans. La deuxième partie, c'est 3 ans et demi ou 1260 jours ou 42 mois. Cette deuxième partie-là de la tribulation est appelée la grande tribulation. C'est aussi un jour de trouble pour Jacob, un jour de trouble pour Israël. Ça va être des persécutions intenses pour le peuple de Dieu. Ça va être à travers des grandes souffrances. Puis vous savez, souvent on se dit pourquoi des gens passent à travers des souffrances. Mais c'est vraiment une façon efficace pour amener des gens à reconnaître leurs besoins d'un salut, de salut que Dieu a pourvu. Puis on dirait quand ça va bien, on n'a pas besoin, on est correct. Mais quand on tombe dans le trouble, c'est là qu'on se tourne vers Dieu. Hein. C'est là qu'on commence à rechercher Dieu. C'est ça que Dieu va utiliser, des souffrances, des persécutions terribles par rapport à l'homme de péché qui va persécuter, puis essayer parce que cet homme de péché-là va être par la puissance de Satan, puis Satan va tout mettre en œuvre pour essayer d'exterminer Israël. Puis on voit présentement aujourd'hui comment l'antisémitisme à travers les nations est à la hausse. Puis là, c'est ça que, éventuellement, dans la tribulation, ils vont vraiment essayer d'exterminer. Toutes les nations vont venir contre Israël pour les exterminer. Puis ça va être à travers ces souffrances-là, tellement les deux tiers d'Israël vont périr. Il va y avoir les deux tiers d'Israël qui vont périr, puis il va en avoir un tiers qui va passer au travers du feu, puis ils vont être épurés et après ça, ils vont être sauvés. On va aller dans Zacharie. On voit ça dans Zacharie au chapitre 13. Zacharie au chapitre 13, il va nous parler de ça. Ça a été prophétisé par Zacharie au chapitre 13 et des versets 7 à 9. Donc, Zacharie 13, les versets 7 à 9, il dit: Épée, lève-toi sur mon berger, sur l'homme qui est mon compagnon. Donc, on voit que le Messie est retranché, le berger, l'épée contre lui. Dit l'Éternel des armées, frappe le berger et que les brebis se dispersent. Quand le Seigneur Jésus, après qui est mort, qui a été enseveli, puis qui est ressuscité, puis ensuite il est monté au ciel, on voit qu'Israël a été dispersé à travers les nations. Les Romains sont venus contre Jérusalem, ils ont détruit Jérusalem, puis les Juifs ont été dispersés à travers le monde. Puis il dit: Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. C'est ce qu'on disait tantôt, là, il y en a les deux tiers qui vont périr. Il y aura un tiers qui va être épargné, mais ils vont passer à travers du feu. Et il dit, je l'éprouverai comme on éprouve, pardon, et je le purifierai comme on purifie l'argent, et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Et à ce moment-là, ils invoqueront mon nom, ils invoqueront mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Voyez-vous, on voit la restauration d'Israël, c'est prophétisé, puis ça va se faire comme le Seigneur l'a dit. Mais quand ils vont, à travers la tribulation, être persécutés, puis les deux tiers vont périr, un tiers va être préservé, mais ils vont passer à travers le feu pour être épurés. Eh bien, là, on va voir après ça, comme il dit dans Romains 11, 26, il dit: Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Mais c'est tout Israël qui va être sauvé à ce moment-là, c'est des survivants. C'est comme ça que dans Matthieu, il dit: Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Des fois, il y a des gens qui nous disent, ben, ça veut dire qu'on est sauvé par les œuvres, parce que si on persévère jusqu'à la fin, on va être sauvé. Mais dans le contexte de ce verset-là, c'est Israël. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est ceux qui vont subsister jusqu'à la fin, ils vont être sauvés. C'est pour ça qu'il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Donc ça, c'est la deuxième partie. Après cela, je reviendrai et relever la tente d'Israël. La troisième partie de notre passage dans Acte 15, c'est les nations vont rechercher le Seigneur à travers Israël. Ça, c'est le millénium. On a vu la période de la grâce, l'Église cherche un peuple pour son fils, être l'épouse. Ensuite de ça, il relève la tente de David. Puis ça, c'est la tribulation quand il va ramener Israël à travers la souffrance. Et le troisième, quand il dit que les nations vont rechercher, ainsi les nations vont rechercher le Seigneur à travers Israël. Ça, c'est le millénium. Mais aussi, ça commence dans la tribulation aussi, parce que là, il revient à utiliser Israël, les Juifs, pour rejoindre les nations, après avoir enlevé l'Église. Donc, ça va commencer durant la tribulation. Puis les Juifs vont être le peuple que Dieu a choisi pour apporter l'Évangile aux nations. On le voit dans l'Apocalypse, dans le chapitre 7, puis dans le chapitre 14, il y a les 144 000 qui sont des témoins pour le Seigneur sur la terre durant la tribulation. On sait qu'ils ne font pas de mal à la terre ni aux arbres, jusqu'à ce que j'ai marqué du sceau les serviteurs de Dieu. Puis c'est les 144 000 qui ne sont pas des témoins de Jéhovah, mais qui sont des 12 tribus d'Israël. 12 000 de chaque tribu qui fait 144 000 sont marqués du sceau. Puis on voit que dans Apocalypse, au chapitre 14, comme on avait vu quand on a regardé Apocalypse, dans Apocalypse 14, au verset 1, ils sont encore là sur la montagne avec l'agneau, puis la montagne de Sion avec l'agneau, puis ils sont encore 144 000, il n'en manque pas un. Donc ces autres sont des témoins, pas juste pour Israël, parce qu'ils vont être des témoins aussi pour les nations, parce que puis aussi il y a les deux témoins de l'Apocalypse, chapitre 11 au verset 3, il y a deux témoins qui vont aussi comme les oliviers, qui vont témoigner à Israël, mais aussi qui vont témoigner aux nations. Puis dans l'Apocalypse 11:3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours, 1260 jours qui est 3 ans et demi, qui est la dernière partie de la tribulation. Puis aussi, il y a un ange qui vole au milieu du ciel avec un évangile éternel. Donc, dans Apocalypse 14, au verset 6, il dit, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Donc, le Seigneur, dans la période de l'Église, il utilise l'Église pour proclamer l'évangile et donner la grande commission. Dans la tribulation, il va utiliser les Juifs pour pouvoir rejoindre les nations avec l'Évangile. Parce qu'on sait qu'à la fin de la tribulation, on a ce qu'on appelle le jugement des nations vivantes sur la terre. Ça, c'est à la fin de la tribulation, le Seigneur il nous a dit qu'il va rassembler les nations, il va avoir les brebis, puis il va avoir les boucs. Puis les boucs, ils vont aller dans le temps de feu. Puis les nations, les brebis, vont aller dans le royaume. Ils vont entrer dans le royaume. Le Seigneur va les faire entrer dans le royaume. Donc, on voit que à la fin de la tribulation, il y a le jugement des nations, puis il y a des sauvés parmi les nations à cause du témoignage qui a été rendu durant la grande tribulation à travers les Juifs. Puis il dit que les hommes vont rechercher, ils vont voir dans les Juifs, ils vont voir le salut de Dieu, puis il va y avoir des gens qui vont être sauvés durant la tribulation. Mais il va y avoir plusieurs qui vont rentrer dans le royaume à cause de ça. Puis, mais aussi dans le millénium. Dans le millénium aussi, on voit que les Juifs, maintenant, à ce moment-là, vont être un témoignage pour Dieu, comme Dieu l'a voulu. Ils vont être un témoignage. Dans Zacharie 8, au verset 23, il est dit, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Et vous, la sagesse de Dieu est là maintenant, à travers l'Église, les Juifs vont voir que Dieu était miséricordieux. Puis il peut être miséricordieux à eux qui ont été désobéissants. Mais à la fin, Israël, il va être un témoignage pour les nations. Ils vont saisir un juif par le pan de son vêtement, puis ils vont dire, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, le témoignage de Dieu à travers Israël. Ça, c'est en accord avec Romains 11-12 qu'on a regardé. Il dit, or si leur chute, il parle des juifs ici, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, puis regardez le mot qu'il utilise ici, Paul, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Ainsi, tout Israël sera sauvé. Puis quand ils vont être tous sauvés, il dit que ça va être encore une plus grande bénédiction parce que si leur amoindrissement ou leur mise à l'écart a été la richesse du monde, mais il dit, ça va être encore une plus grande richesse. Puis moi, je crois vraiment que quand les Juifs vont tous se convertir au Seigneur, ça va être un grand réveil pour les nations. Parce qu'ils vont voir dans ces Juifs-là, puis on dit ça, hein, que quand un Juif reconnaît son Messie, là, bien, ils deviennent zélés. Autant ils sont contre quand ils se tournent, de la même façon que Paul. quand Paul il était contre le Messie, quand il était contre le Seigneur Jésus-Christ, il l'a persécuté, il persécutait les chrétiens. Mais quand il s'est converti, qu'est-ce qu'il est devenu? Bien, il est devenu le grand apôtre Paul qui a proclamé l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui a proclamé le nom du Seigneur, qui a souffert pour le nom. Puis Paul est un type d'Israël parce qu'ils ne l'ont pas vu. Paul n'avait pas vu le Seigneur ressusciter, sinon après que le Seigneur était monté au ciel. Puis les Juifs, ils vont se convertir quand ils vont voir le Seigneur ressusciter. Mais après, Paul, il dit qu'il était comme l'avorton, il était né hors temps. Mais moi, je suis convaincu que d'après ce qu'on lit là, il dit combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Fait que ça va être un grand réveil parmi les nations. C'est sûr que c'est à la fin de la tribulation qu'ils vont se convertir tous, mais ça va être un grand témoignage. Mais durant cet intervalle-là qu'on regarde ensemble ce soir, l'intervalle, il y a deux mystères du Nouveau Testament qui sont durant cet intervalle-là. Le premier, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël. Dans Romains 11, 25, il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël, puis il dit une partie parce qu'il y en a parmi Israël qui sont sauvés, puis il y en a qui acceptent le Seigneur. Donc, ce n'est pas complètement, mais c'est ceux qui rejettent leur Messie. Il dit, que je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, c'est un mystère. On parle du mystère de l'aveuglement d'Israël à cause du rejet de leur Messie. C'est en partie parce que le salut, quand même, est offert à eux en tant qu'individus, pas en tant que nation, en tant qu'individus, parce qu'en tant que nation, ils sont dans l'aveuglement. Mais l'autre mystère qu'on voit dans cet intervalle-là, c'est le mystère de l'Église. Dans Éphésiens 5, versets 31-32, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, l'épouse de Christ, c'était l'Église qui est rassemblée dans cet intervalle-là qu'on voit présentement. Eh bien, c'est un mystère dans l'Ancien Testament. On peut le voir maintenant quand le mystère nous est révélé, parce que dans la création d'Ève pour Adam, puis on voit que c'était dans le plan de Dieu, c'était dans la pensée de Dieu, mais eux ne le connaissaient pas dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, à nous, puis Paul, il nous en parle de ce mystère-là dans Éphésiens 3 et 4. Il parle de la grande connaissance qu'il a de ce mystère-là dans lequel il leur a parlé en peu de mots. Donc, on a le mystère d'Israël et son aveuglement, l'aveuglement d'Israël. On a le mystère de l'Église, c'est que Dieu rassemble maintenant des nations, des païens, se rassemble un peuple qui porte son nom. Mais pour cela, il fallait qu'Israël soit mis de côté, mais seulement pour un temps. Parce que la période dans laquelle il rassemble son Église, c'est maintenant 2000 ans d'histoire. Puis après qu'il a fini de rassembler l'épouse de Christ, il l'enlève au ciel pour être dans sa présence. Ensuite de ça, il relève la tente d'Israël. Puis là, il revient avec les Juifs. Parce que il faut. Ça, ça démontre encore la puissance de Dieu, puis la vérité des Écritures. Les prophéties que Dieu a faites, les promesses que Dieu a faites vont s'accomplir à la lettre, puis il n'y a rien qui peut empêcher ça. Même toute la haine de Satan ne peut pas vaincre pour empêcher Dieu d'accomplir ses promesses. C'est quelque chose des promesses que Dieu a faites à Abraham. Là. Il faut que les promesses que Dieu a faites à Abraham s'accomplissent et ils vont s'accomplir. Vous savez, dans Romains 11, 28 à 29, il nous est dit, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, en parlant des Juifs, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis maintenant, mais en ce qui concerne l'élection, Ben, ils sont aimés à cause de leur père, parce que Dieu a fait des promesses à Abraham, puis même il a dit à Abraham que toutes les nations seraient bénies en sa postérité. Donc, on voit que qu'est-ce que Dieu a dit? C'est certain que l'Israël a reçu en partie des promesses de Dieu, mais ils ont pas jamais reçu dans leur totalité. Ils ont reçu le pays, mais ils l'ont jamais reçu dans la totalité, puis ils l'ont perdu dans un sens à cause de leur idolâtrie, à cause de leur désobéissance. Dieu les a enlevés du pays, il les a ramenés, mais seulement en partie. Ça n'a jamais été là, dans ce moment-là, quand il revient, qu'il relève la tente d'Israël, il va toutes les ramener, puis il va leur donner le pays. Le pays pour lequel on se bat présentement, là, ben, les gens ils disent, ben, les Palestiniens, eux autres, ils disent que c'est à eux autres. Les Juifs disent que c'est à eux autres, mais le pays appartient à l'Éternel. C'est son pays, puis il donne à qui il veut. Puis lui, il le donne à Israël, il en a fait la promesse, puis il va leur donner complètement dans toutes ses limites, dans toutes ses frontières qu'il a promis à Abraham. Il va leur donner le pays parce que personne ne peut l'empêcher parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. Autant il a parlé, puis la création a été faite par sa parole, autant il va accomplir ses promesses envers la postérité d'Abraham. Puis l'aveuglement, comme on a dit, c'est en partie, il dit dans Romains 11, 25, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. En tant que nation, ils sont aveugles, aveugles maintenant. Mais en tant qu'individu, comme on a dit, ils peuvent être sauvés aussi bien que nous. Un juif a autant accès au salut dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, dans l'œuvre de Christ accomplie sur la croix, que nous autres. Puis, quand l'Église va être enlevée, bien, Dieu va reprendre à ce moment-là, comme on a dit auparavant, l'horloge prophétique s'est arrêtée avec le début quand le Seigneur a été retranché, puis il va être recommencé quand l'Église va être enlevée. Parce que c'est cette période-là qu'on a dit encore, la dispensation de la grâce ou la période de l'Église. Mais quand l'Église va être enlevée, Dieu va reprendre son activité avec Israël en tant que nation. Puis on voit si on va dans Romains 11, au verset 24, Romains 11, au verset 24, il nous dit ici, si toi, okay, peut-être qu'on va lire avant, là, et au verset 22, même au verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, donc ça c'était Israël qui ont été désobéissants, si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est des branches qui étaient sur l'olivier franc, c'est-à-dire que c'était eux autres, Israël, il ne t'épargnera pas non plus. Donc en tant que nous autres, l'Église, il faut faire attention. Puis là, ici, on ne parle pas de salut, mais on parle de témoignage. Parce qu'Israël était un peuple témoin sur la terre. Puis ils ont été retranchés comme témoins sur la terre. Faut pas mêler ça avec le salut, là. C'est que Dieu utilisait Israël pour se révéler aux nations, mais là, il les a mis de côté à cause de leur endurcissement, à cause de leur désobéissance. C'est pour ça qu'il dit, il les a, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. C'est-à-dire qu'il va, quand l'Église est désobéissante au Seigneur, ben, elle perd son témoignage. Elle ne devient plus un témoignage pour le Seigneur. Il dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Donc, c'est une grâce qui fait de nous utiliser comme témoins pour son évangile sur la terre. Mais aussi sévérité, on ne se moque pas de Dieu. Si on n'agit pas, si on est désobéissant, c'est pour ça que quand on est désobéissant à Dieu, notre témoignage est annulé. Notre témoignage n'a plus d'effet. Comme Israël, leur témoignage n'a plus d'effet présentement parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Ils ne témoignent plus de la vie de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que. Il dit que lui, il est le cep, puis nous autres, on est les sarments ou les branches. Puis il dit que si on ne demeure pas attaché au sarment, eh bien, on démontre plus la vie de Dieu en nous. Parce qu'on est coupé, puis les hommes brûlent. Ça veut dire que les hommes brûlent les branches qui sont coupées parce qu'ils ne sont plus utiles pour le témoignage sur la terre. Donc, il dit, Considère donc la bonté, la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. C'est une grâce qui nous a été faite, nous autres, de devenir le peuple témoin de Dieu sur la terre en tant qu'Église, là. Il dit, autrement, tu seras aussi retranché. Faut pas s'enorgueillir. Il faut pas penser que c'est une grâce qui nous a été faite. Puis, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, c'est seulement la grâce de Dieu qui a fait en sorte que nous, maintenant, on est un peuple témoin sur la terre. Comme je dis, il ne faut pas mêler ça avec le salut, là. C'est que Dieu, puis l'élection, Dieu a choisi Israël pour être un peuple témoin. Puis maintenant, il a choisi l'Église, celle qui n'était pas un peuple, pour maintenant être témoin. Pas pour être sauvé, pour être un témoin pour lui sur la terre. Il dit, autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, voyez-vous, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Voyez-vous, ça, c'est la restauration d'Israël comme peuple témoin que Dieu va utiliser encore. Il va revenir à son plan de les utiliser comme peuple pour être un témoin pour lui. Ce passage-là, là, c'est pas en question. C'est pas par rapport au salut du tout, c'est par rapport à le témoignage qu'on rend pour lui. Un peuple témoin sur la terre. Ça nous aide à comprendre ce passage-là. Et eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature, sur leur propre olivier. Oui, c'est certain, c'est Dieu est capable de faire ça. S'il était capable de nous prendre, nous autres qui étions des branches sauvages, puis nous greffer à l'olivier franc pour qu'on soit le témoignage pour lui sur la terre, ben, c'est certain qu'il peut regreffer son peuple. C'est un miracle quand on pense à ça, qu'après 2000 ans qu'ils ont été coupés, ils vont être greffés de nouveau pour être un témoignage pour lui sur la terre. Enfin, puis là, c'est là qu'il dit que je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Puis dans leur salut, ils vont vraiment démontrer la vie de Dieu pour être des témoins. C'est ça que les trois prochaines fêtes qu'on va regarder ensemble, c'est ça qu'ils vont représenter. On va regarder la fête des trompettes, c'est le rassemblement. Dieu va les rassembler, puis ils sont éparpillés présentement. Puis, c'est intéressant de penser que dans la Deuxième Guerre mondiale, l'antisémitisme était tellement grand qu'ils ont réalisé qu'il fallait qu'ils retournent dans leur pays, puis les Nations unies leur ont donné le pays, la terre d'Israël, pour retourner parce qu'ils n'étaient pas sécuritaires à nulle part. Ils étaient pourchassés. Puis, on parlait d'un juif errant. Hein. C'était un dicton, un juif errant. Mais il n'était pas en sécurité en dehors de son pays. Ils sont retournés. Puis, on sait que depuis qu'ils sont retournés dans leur pays, maintenant, ils ont une armée puissante, Israël. On le voit maintenant comment leur armée est puissante. Puis, ça leur a donné une sécurité dans un sens de revenir dans leur pays. Mais maintenant que l'antisémitisme, on le voit croisser devant nos yeux. On voit l'antisémitisme parmi les nations. Là, on voit que l'antisémitisme est à la hausse. Puis que cet antisémitisme-là, là, le Seigneur peut l'utiliser. Ils vont réaliser que maintenant, il y a bien des Juifs qui sont installés un peu partout dans le monde. Puis avec leurs biens, c'est comme nous autres, on n'aime pas être délogés. Mais ils ne retournent pas, ils sont comme lents un peu pour retourner dans leur pays. Mais quand ils vont être rendu un objet ils vont être en danger parmi les nations. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner dans leur pays pour se rassembler ensemble, pour devenir forts. Puis ça, c'est la fête des trompettes. Dieu va les rassembler. Vous savez qu'on voit comment, on voit toute l'histoire se dérouler, mais Dieu est puissant pour accomplir ce qu'il a. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Puis Dieu utilise les situations dans le monde pour rassembler son peuple, les emmener. Puis après ça va être le jour des expiations. Et dans le jour des expiations, ben, ils vont être restaurés. Ils vont être sauvés. Ils vont reconnaître leur Messie comme dans la fête, quand on va regarder la fête des expiations, puis ensuite de ça, le Seigneur va leur donner le royaume. Ça, c'est la fête des tabernacles. Mais vous savez, ça, c'est un grand miracle, puis c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas nier. Le fait que les Juifs, après 2000 ans de dispersion, n'ont pas été anéantis. Ils ont gardé leur identité juive. Ils sont encore des Juifs aujourd'hui. Il y a encore des Juifs sur la terre. Il y a encore des Juifs de toutes les tribus sur la terre. Puis, dans Ézéchiel, on va voir ça, dans Ézéchiel 37, Dieu va joindre Éphraïm, puis il va joindre Juda. Il va, avec deux pièces de bois que le prophète avait, avec le nom de Juda sur un, puis le nom d'Éphraïm sur l'autre, il va les joindre ensemble. Ils vont redevenir une seule nation, un seul peuple. Puis, c'est extraordinaire que, quand on voit ça, là, puis après 2000 ans de dispersion, ils ont gardé leur identité, puis même il y a des Juifs qui peuvent être rassemblés dans leur pays. Vous savez, moi, d'autres, on voit ça, ça prend pas longtemps à perdre notre identité, là. Une génération, on perd notre identité. D'autres, nos enfants n'ont pas été élevés au Québec. On a forcé, on a travaillé fort pour qu'ils gardent leur langue, qu'ils puissent parler français. Mais j'ai des frères, j'ai deux de mes frères que leurs enfants parlent même pas français. Puis mes enfants même ont pas la culture québécoise parce qu'ils ont été élevés dans d'autres provinces. Puis ils ont perdu la culture québécoise, mais on a forcé pour garder la langue. Comment longtemps que ça va durer dans les générations, on ne sait pas. Mais j'ai de mes frères qui ont des enfants qui parlent même pas français. Ils ont le nom, c'est des Saint-Laurent, mais ils ont rien de la culture. Puis, ils n'ont rien du langage. Ils ne parlent même pas le langage. Imaginez-vous, les Juifs et d'autres, après, c'est un miracle de la puissance de Dieu que les Juifs ont gardé leur identité dans la dispersion pendant 2000 ans. Puis, vous savez, quand quelqu'un nous dit que la Bible, c'est écrit par des hommes, puis que c'est pas vrai, là, ben, ça, c'est l'argument clé pour leur fermer la bouche. Quand on leur dit, tu peux pas nier que les Juifs sont encore là. Puis si les Juifs sont encore là, c'est que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Puis ça démontre la vérité de la parole de Dieu, l'authenticité, la puissance de la parole de Dieu. Ça c'est un argument. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, je l'ai déjà fait. J'ai utilisé cet argument-là, puis ça ferme la bouche à ceux qui argumentent, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les Juifs sont encore là, puis sont une pierre pesante pour les nations présentement, comme la parole de Dieu nous dit. Mais s'ils sont encore là, ça veut dire que Dieu va accomplir parfaitement pour eux les promesses qu'il a accomplies. Fait que je m'arrête là pour ce soir, puis je vais vous donner la possibilité de reprendre votre micro. Si vous avez des commentaires ou des questions, on va regarder ça ensemble pendant une dizaine de minutes.
Oui, j'aurais une question, Gérald.
OK.
Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et puis, l'explication de Romains 11, 22, considérer donc la bonté et la sévérité de Dieu. Alors, j'ai bien aimé l'explication pour ces versets. Ma question, ça concerne de mentionner le monde en trois parties, Israël, l'Église puis les nations. Après ça, il me semble que tu as fait allusion à Matthieu 13, peut-être, là, le trésor caché, la
Oui,
perle de grand prix et puis
exact.
le filet.
C'est ça, oui.
Donc, ces trois paraboles qui se suivent. Alors, le trésor caché, c'est Israël.
Israël, oui.
OK, la perle de grand prix, c'est l'Église et puis le filet, c'est les nations.
C'est ça, exactement. Parce
OK.
que Dieu a toujours en vue les trois divisions de l'humanité. C'est lui qui les caractérise ou il les met dans trois divisions comme ça. Mais on voit la grâce de Dieu, c'est pas limité. La grâce de Dieu, c'est envers tous. L'offre de salut est universelle, mais il est reçu individuellement. Mais c'est
Mille
ça. Oui.
merci, Gérald.
Ouais. C'est intéressant parce qu'on voit que c'est la même chose dans les paraboles. On a quatre des premières, après ça, on a les trois dernières. Les quatre, la première, c'est la semence qui est semée. Donc, l'évangile qui est envoyé. Ensuite de ça, on a l'opposition dans les trois prochaines paraboles. Puis, dans les trois dernières, on a le résultat en dépit de l'opposition de Satan contre l'Évangile. Eh bien, on voit que Dieu quand même rejoint les trois divisions de l'humanité, Israël, l'Église et les nations.
Merci.
Ouais, comme tu disais, Joël, quand durant la tribulation, les 144 000 qui vont se convertir, ouais, j'imagine qu'ils vont être convaincants, ceux-là, là.
Oui.
Parce que comme tu dis, quand un juif se convertit, là, il reconnaît vraiment là, que le Seigneur Jésus-Christ, c'était le Messie, puis là, les autres, là. Tu sais, il y a plus de doute, là. C'est le Seigneur Jésus, quand ils le reconnaissent, là, c'est le Messie, puis c'est toute leur espérance. Donc, imagine que comme les nations, ils vont les saisir par le pan de la robe parce qu'ils vont savoir que Dieu est de leur côté. Et ça va être extraordinaire parce que il n'y a de salut en aucun autre. Nous autres, on sait ça par la foi. Mais les autres, ils savent de génération en génération parce que tout ce qui leur avait été annoncé, qu'ils n'ont pas reconnu, ils vont capter ça dans ce moment-là. Là. Ça va être une grande annonce pour eux autres, là.
Ouais, il dit ça quand il dit quand sont voilés jusqu'à présent, quand ils lisent Moïse, il y a un voile qui est jeté sur leurs yeux, mais quand ils se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Fait qu'imaginez-vous, eux qui ont toute la connaissance des types puis des choses, à un moment donné, quand ils voient le Seigneur Jésus-Christ là-dedans, là, ben là, ça, c'est toute l'Écriture s'ouvre à eux autres. Là. Puis c'est ça, les Juifs sont zélés quand ils se convertissent au Seigneur, là, comme Paul. Paul est un type des Juifs qui vont se convertir.
Ça nous fait penser un peu comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui marchaient avec le Seigneur puis sans le reconnaître. Puis là, quand ils l'ont reconnu, là, ben, tout ce qui leur avait été dit, tout ce que le Seigneur leur avait enseigné, là, ça s'est tout concrétisé là, en un instant. Là. Puis là, ils ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'il nous expliquait? C'était lui la parole qui expliquait la parole. Ça, c'est... Ils ont été convaincus là, d'une façon extraordinaire. Hein? Ils ont même viré de bord, puis ils ont descendu voir les autres à Jérusalem. Il y avait 16 km de fait, puis c'était après le souper, mais ils ont parti, puis ils ont descendu à Jérusalem.
Dans leurs ailes, ouais, c'est ça, ils étaient tout
Dans leurs
tristes.
ailes, c'est ça, là, comme les
Le rêve.
144 000 vont être zélés d'une façon extraordinaire.
Il s'éloigna du lieu de rassemblement, mais
Ouais.
après, ils ont été restaurés, ils sont revenus.
Ils ont revenu direct. Ouais.
Ouais, je suis convaincu que ça va être une grande chose. Puis c'est pour ça que je trouve ça triste que des gens aujourd'hui croient que, on va le voir quand on va parler de la fête des trompettes, là, il y a des gens qui croient que Dieu en a fini avec Israël. Puis c'est sûr que nous autres, quand on pense à la façon que Dieu, à la façon qu'ils ont traité le Seigneur Jésus, tout ça, nous autres, on aurait fini avec eux autres. Mais Dieu n'a pas fini avec eux autres. Puis, mais quand Dieu va faire pour eux autres ces grandes choses-là, ça va être extraordinaire. Ça va être un réveil merveilleux. Vous savez, quelqu'un, quand on parle tu parlais des 144 000 là, qui vont être des témoins du Seigneur, imaginez-vous, c'est quand on est vraiment en feu pour le Seigneur, là, notre témoignage, c'est là qui est fort.
Livré.
Mais si on n'est pas sérieux, puis il n'y a pas la sainteté, la sanctification qui se fait en nous, ben, les gens ne sont pas attirés parce qu'ils ne voient pas la puissance de l'Évangile. Paul, il pouvait dire, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. C'est Spurgeon qui disait, si l'Église est en feu, le voisinage va courir pour la voir brûler. Il ne parlait pas de la bâtisse.
Non.
Il parlait de la vraie Église, les chrétiens. Puis c'est vrai que si un groupe, une église de chrétiens qui est en feu pour le Seigneur, là, ça fait tout un. Les gens, ils sont attirés vers ça parce qu'ils voient la réalité de la puissance de l'Évangile. Puis c'est quoi qu'on a besoin? On a besoin de cette puissance-là dans nos vies. Mais si on ne la voit pas, on n'est pas attiré.
J'aurais une question, mon général.
Oui.
La fête de l'automne, elle s'appare-tu, autrement dit, je comprends, en trois façons. Mettons, la fête des trompettes, le jour des expiations, puis la fête des tabernacles.
Ouais, c'est
Est-ce que
pas
ça
oui.
s'appare en trois, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mais c'est un temps où ils venaient tous à Jérusalem parce que
Vraiment quelque chose.
ouais, c'est vraiment, il nous a donné le verset de 1 Corinthiens qui nous donne les trois divisions de l'humanité, là. C'est
OK.
dans. C'est dans. Il nous a donné. Un petit peu, voyons, je le trouve pas. C'est 1
1
Corinthiens.
Corinthiens.
Puis
10-32.
10, 32, ouais. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à. Ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, ni aux Grecs.
OK. Mais qu'est-ce que je trouvais intéressant dans ces trois-là? Ben, l'affaire des trompettes, c'est le rassemblement, le retour des Juifs, comme que j'ai compris. Après le jour des expiations, ils vont être restaurés, ils vont être sauvés. Puis après ça, la fête des tabernacles, là, je m'en souviens pas, je ne l'ai pas écrit, là.
Le royaume.
C'est le royaume, OK.
Il leur est donné, oui. Fait que c'est ça, le Seigneur va les rassembler, puis il va. Mais c'est parce que trois fois par année, les Juifs devaient venir, les morts devaient venir à Jérusalem. Pour la première fois, c'était la Pâque, les pains sans levain et la fête des prémices. Ensuite de ça, ils revenaient après 50 jours pour la fête de la Pentecôte. Puis après, ils revenaient au septième mois pour les trois dernières fêtes, les trompettes, l'expiation et le tabernacle.
Okay.
Puis il y a des fêtes qui sont d'une durée, c'est une journée, puis d'autres, c'est 7 jours. Comme la fête des pains sans levain, c'était 7 jours, parce que c'est une période, ça représente la vie chrétienne, tandis que la fête des tabernacles était 7 jours aussi, parce que ça représente le royaume. C'est une période parfaite. Quand c'est maintenant, c'est 1000 ans, mais ensuite de ça, on va tomber dans l'éternité aussi.
Bien, merci.
Il y a tellement de choses à voir là-dedans. Mais tout ça pour la gloire de Dieu. C'est son plan. C'est sa sagesse infiniment variée. Puis, ça fait la même chose que pour moi, là, mais ça nous porte à l'adoration. Puis le désir d'être dans son plan, le désir de marcher comme lui veut, chercher la sanctification, puis de vivre vraiment pour lui, puis d'être des témoins pour lui. Vous savez, ça nous donne de la joie quand on peut témoigner de l'Évangile à quelqu'un. Mais c'est tout un dur, tout un combat. Des fois, on manque les opportunités. Donc, le temps est arrivé, on est rendu à 8 h, c'est qu'on peut terminer par un mot de prière, puis ceux qui doivent partir pourront partir. Si vous voulez continuer à jaser, on peut continuer à jaser, mais on va terminer pour ceux qui doivent partir. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour des choses merveilleuses, Seigneur. Quand on pense aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. On te remercie, Seigneur, parce que devant toutes ces choses, on est ébloui de ta grandeur, de ta puissance, Seigneur. Puis ce que tu as dit, on peut s'y fier à 100% parce que rien ne peut t'empêcher, Seigneur, d'accomplir ce que tu as pensé. Puis, Seigneur, on anticipe, on prie pour les Juifs qui sont dans la souffrance présentement, puis qui vont aller en s'accentuant dans la tribulation. Eh bien, Seigneur, on te prie pour eux autres. On te prie pour ce jour merveilleux où ils vont finalement se tourner vers toi. On prie pour la paix de Jérusalem, Seigneur, cette ville qui nous parle, qui son nom peut dire la paix. Eh bien, elle n'a pas connu la paix encore, mais un jour, elle va la connaître. Mais on te remercie pour nous, Seigneur. C'est vraiment merveilleux d'être ton Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, puis on anticipe la venue de ton Fils sur la nuée pour nous prendre et nous emmener avec lui pour l'éternité dans ta présence. On te rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.